Andrei Vierou, pianiste.
Je crois qu'il y a un équilibre parfait entre le dit et le non-dit chez Turgenev. Et c'est très rare, vraiment. En plus, il y a quelque chose qui ne cogne pas dans son message et dans sa façon de faire. Dostoïevski cogne, il cogne fort. Ce n'est pas le cas de Turgenev.
Ça ne peut pas faire de mal.
Turgenev va en douceur. Il donne l'impression de dire les choses à une température basse. Il donne parfois même l'impression de froideur, ce qui n'est pas un mot à la mode. Mais la froideur est une qualité. Pas toujours, mais à ce niveau-là, c'est une qualité.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça ne peut pas faire de mal.
Sans être né chasseur, peut-être aimez-vous la nature. S'il en est ainsi, vous devez nous envier. Écoutez donc. Connaissez-vous, par exemple, l'enchantement de se mettre en route au printemps avant l'aube? Vous sortez sur le perron. Au ciel d'un gris sombre scintillent encore quelques étoiles. Un souffle humide s'élève en ondes légères. On perçoit le murmure vague et discret de la nuit. Les arbres, enveloppés d'ombre, bruissent doucement. On étend un tapis dans la télègue. On place à vos pieds une caisse avec un samovar. Dans le jardin, le gardien ronfle paisiblement derrière la haie. Le moindre bruit reste dans l'air alourdi. Vous vous installez. Les chevaux s'enlèvent d'un seul élan, la voiture roule avec fracas. On passe devant l'église, on descend la côte, on prend à droite le long de la chaussée. La fraîcheur vous saisit, vous relevez le col de votre manteau et vous vous laissez aller à une douce somnolence. Les chevaux pataugent dans les flaques d'eau, le cocher sifflote. Vous avez déjà fait 3 ou 4 verstes. L'horizon s'enflamme. Dans la forêt, les choucas s'éveillent et voltigent doucement. Les moineaux piaillent autour des meules encore sombres. Le jour s'accentue, la route se précise. Le ciel se fait plus serein, les nuages plus blancs, les champs plus verts. La flamme rouge des oribus s'allume dans les isbas. Des voix ensommeillées montent derrière les portes cochères. Cependant, l'aurore s'avance. Voici déjà au ciel de longues traînées d'or. Des vapeurs flottent dans les ravins. L'alouette chante à plein gosier. Le vent précurseur du jour souffle et le disque empourpré émerge doucement. La lumière se déverse en torrent. Le cœur bondit en vous comme un oiseau. Tout est frais, joyeux, plaisant. La vue s'étend au loin. Un village s'estompe derrière la forêt et là-bas un autre avec son église blanche. Voici sur une hauteur un petit bois de bouleaux et plus loin le marais, but de votre course. Plus vite mes bons chevaux, plus vite, en avant au grand trot, plus que 3 verstes. Le soleil monte rapidement, le ciel est pur, le temps sera beau. Un troupeau vient du village au-devant de nous. Nous voilà sur la hauteur. Quelle vue! La rivière d'un bleu terne sous le brouillard nous découvre 10 bonnes verstes de ses méandres. Au-delà s'étendent des prairies d'un vert d'eau. Plus loin, des collines ondulent. Les vanneaux tournoient en criant au-dessus du marais. À travers la clarté moite, les lointains se dessinent, plus précis qu'en été. Que la poitrine respire librement. Que les mouvements ont d'aisance, comme l'être se sent ranimé par la fraîche haleine du printemps. C'était l'un des nombreux éloges de la nature qui parcourt ce recueil de nouvelles, les mémoires d'un chasseur qui ont fait connaître leur auteur, Ivan Turgenev, dès 1847, de Moscou à Paris. Amoureux de sa terre natale et grand chasseur, l'écrivain russe se fait à 29 ans le chantre de la vie paysanne et dénonce la tyrannie du servage. Ce qui lui vaudra 1 mois de prison et l'interdiction de quitter le pays pendant 5 ans. Il choisira ensuite l'exil et vivra plus de 30 ans en France. Observateur de la nature, mais aussi de la mentalité de son époque, Tourguéniev signe une œuvre théâtrale et romanesque qui témoigne à distance de l'évolution de la Russie dans la seconde moitié du XIXe siècle. L'affranchissement des paysans, mais aussi le passage du romantisme aux prémices de l'esprit révolutionnaire. Ce soir, évoquons quelques-uns des thèmes de prédilection du plus français des écrivains russes. La condition des serfs, mais aussi le conflit des générations et le passage du temps. Sans oublier, bien sûr, sa fascination pour les femmes. Et pour m'accompagner dans ces lectures, j'ai l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir un grand ami et lecteur passionné de Tourguéniev qui lui aussi a une fascination pour les femmes, Julien Clerc. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Et commençons avec vous par l'évocation de la condition des serfs à laquelle l'écrivain est particulièrement sensible. Voici un extrait de la nouvelle « Moumou ». Condamné pour ses mémoires d'un chasseur, c'est à la prison de Saint-Pétersbourg en mai 1852 que Tourguéniev rédige cette nouvelle poignante qui témoigne de la tyrannie de sa propre mère à l'encontre des serfs. Toute sa jeunesse, il souffre du caractère de cette mère autoritaire qui maltraite ses employés et qui lui coupe les vivres lorsqu'il lui annonce qu'il veut se consacrer à la littérature. Le personnage de Gérassime rend hommage à l'un des domestiques du domaine familial des Tourguéniev à Spasskoe, à 350 km au sud de Moscou. Dans la nouvelle, le personnage, sourd-muet, est muté à Moscou contre sa volonté. Un jour, il s'entiche d'une petite chienne qu'il sauve de la noyade et qu'il appelle Moumou, car ce sont les seuls sons qu'il parvient à prononcer. Mais la maîtresse de maison exige qu'on se débarrasse de l'animal. Face à cette épreuve cruelle, le paysan révèle toute sa dignité.
Une heure après cette chaude alarme, Gérassime, revêtu de son caftan des dimanches et tenant en laisse Moumou, apparut à la porte de son réduit. Sans la moindre attention au domestique qui le suivait des yeux, il se dirigea vers la rue et entra dans un cabaret. Le muet était connu de cet établissement, on y comprenait ses signes. Il demanda la soupe et le bœuf, et s'assit les coudes sur la table. Moumou s'installa auprès de lui, le regardant de ses yeux expressifs. Son poil luisant montrait qu'elle venait d'être brossée. Quand on eut servi Gérassime, il émietta du pain dans la soupe, coupa le bœuf en petits morceaux et posa l'écuelle par terre. Moumou se mit à manger avec sa délicatesse habituelle, touchant à peine l'émet du bout de son museau. Son maître la contempla longuement. Tout à coup, deux grosses larmes s'échappèrent de ses yeux. L'une tomba dans la soupe, l'autre sur le front bombé de la chienne. Gérassime cacha sa figure dans ses mains. Quand elle eut avalé une demi-écuellée, la chienne s'éloigna en se pourléchant les lèvres. Gérassime se leva, paya et sortit sous le regard interdit du garçon. Gérassime, tenant toujours Moumou en laisse, avançait à pas lents. Arrivé au coin de la rue, il hésita un instant, puis, hâtant soudain sa marche, il se dirigea tout droit vers le guet de Crimée. Chemin faisant, il entra dans la cour d'une maison que l'on agrandissait et en ressortit avec deux briques sous le bras. Quand il eut atteint le guet, il suivit la berge de la rivière jusqu'à un certain endroit où il avait naguère remarqué deux barques. Il sauta dans l'une d'elles avec Moumou et se mit à ramer vigoureusement. Bientôt, les dernières maisons de Moscou disparurent, cédant la place à des potagers, des champs, des prairies, des chaumières. Alors il laissa tomber les avirons, pencha la tête sur Moumou qui s'était installée devant lui sur la banquette, car le fond était plein d'eau, et demeura un certain temps immobile, les bras croisés dans le dos, tandis que le courant reportait peu à peu la barque en arrière. Soudain, il se releva, les traits empreints d'une sauvagerie affectée, douloureuse, noua brusquement avec la laisse les deux briques qu'il avait apportées, les lia au cou de la chienne, la souleva au-dessus de la rivière, la contempla une dernière fois. Elle le regardait sans crainte aucune en agitant doucement la queue. Il détourna la tête, ferma les yeux, ouvrit les mains. Gérassime n'entendit rien, ni le court jappement de la pauvre Moumou, ni le lourd clapotis de l'eau. Le jour le plus bruyant était pour lui le plus silencieux que ne l'est pour nous la nuit la plus calme. Quand il rouvrit les yeux, la rivière roulait comme auparavant ses flots calmes. le soir même sur la route de T, cheminait à pas rapides une manière de géant. C'était Gérasim. Résolument, sans un regard en arrière, il s'en allait vers sa terre natale. Après avoir noyé la pauvre Moumou, il était accouru en grande hâte dans sa chambre, avait fait un paquet de ses quelques hardes, se l'était jeté sur l'épaule et... adieu. Sûr de retrouver son chemin, il marchait avec une ardeur farouche qui tenait autant de l'allégresse que du désespoir. La nuit tombait, une nuit calme et tiède. Les cailles courcaillaient par centaines. Les râles de jeunesse appelaient sans répit. Gérasim ne pouvait les entendre, non plus que le murmure nocturne des arbres le long desquels emportaient ses jambes robustes. Mais il reconnaissait l'arôme familier des blés qui mûrissaient dans les champs remplis d'ombre. Il aspirait l'air vivace du sol natal qui, semblant venir à sa rencontre, lui caressait le visage, se jouait dans sa barbe et dans ses cheveux. Il cheminait comme un lion vigoureux et hardi. Et lorsque le soleil levant vint l'illuminer de ses rayons rougeâtres, 35 verstes séparaient déjà de Moscou l'infatigable marcheur.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Je me suis embarqué sur un vaisseau qui danse et roule bord sur bord et tangue et se balance. Mes pieds ont oublié la terre et ses chemins. Les vagues souples m'ont appris d'autres cadences, plus belles que le rythme là des chants humains. À vivre parmi vous, hélas, avais-je une âme. Mes frères, j'ai souffert sur tous vos continents. À vivre parmi vous, hélas, avais-je une âme. Mes frères, j'ai souffert sur tous vos continents. Je ne veux que la mer, je ne veux que le vent pour me bercer comme un enfant au creux des lames. Hors du port qui n'est plus qu'une image effacée, les larmes du départ ne brûlent plus mes yeux. Je ne me souviens pas de mes derniers adieux. Oh, ma peine, ma peine, où vous ai-je laissé? Voilà, je suis parti plus loin que les Antilles, vers des pays nouveaux, lumineux et subtils. Je n'emporte avec moi pour toute pacotille que mon cœur mêlé sauvage. En que mon cœur
embarquer sur un vaisseau qui danse.
Poursuivons avec l'émergence de l'esprit révolutionnaire, extrait d'un de mes livres préférés, Père et Fils. C'est le roman le plus célèbre de Tourguignev, considéré comme son chef-d'œuvre et le symbole du passage de l'ancienne à la nouvelle Russie. Un an après l'abolition du servage, l'écrivain fait le portrait d'un propriétaire terrien, Nicolas Petrovitch Kirsanov, un libéral défenseur des paysans. Il attend le retour de son fils, Arkad, qui vient de terminer ses études. Celui-ci arrive en compagnie d'un camarade, Eugène Bazarov, futur médecin et nihiliste, qui ne croit pas en l'esprit mais dans la dissection des grenouilles et qui incarne la mentalité pré-révolutionnaire. Dans le passage suivant, une violente dispute oppose Eugène Bazarov à l'oncle d'Arkad, Paul Petrovitch, un vieil aristocrate célibataire aux allures de dandy. Tiraillé entre son camarade et son oncle, Arkad assiste impuissant à ce terrible conflit des générations. Aristocratisme, libéralisme, progrès, principe, dis donc, que de mots étrangers et inutiles. Rien d'étonnant à ce que les Russes n'en aient aucun besoin.
Et de quoi ont-ils besoin, selon vous? Permettez, la logique de l'histoire exige...
Mais qu'avons-nous à faire de cette logique? Nous nous en passons bien. Vous n'avez pas besoin de logique, j'espère, pour vous mettre un morceau de pain dans la bouche quand vous avez faim.
Et vous insultez le peuple russe. Je ne comprends pas comment on peut refuser d'admettre des principes, des règles. En vertu de quoi agissez-vous donc?
Nous n'admettons pas d'autorité. Nous agissons en vertu de ce que nous reconnaissons comme utile. À l'époque actuelle, ce qu'il y a de plus utile, c'est la négation. Donc nous nions tout.
Tout. Comment tout? Non seulement l'art, la poésie, mais même la... j'ose à peine le dire, la famille.
Absolument tout.
Tout de même. La famille telle qu'elle existe chez nos paysans.
Là-dessus aussi, je présume, mieux vaut ne pas entrer dans les détails. Vous avez certainement entendu parler des beaux-pères qui abusent de leur bru dans les campagnes.
Comment osez-vous? Vous niez tout, plus exactement, vous détruisez tout.
Il faut d'abord déblayer le terrain. La condition actuelle du peuple l'exige. Nous devons répondre à ces exigences. Nous n'avons pas le droit de nous abandonner à la satisfaction de notre égoïsme personnel. Nous...
Non. Je ne veux pas croire que vous, messieurs, vous soyez de bons connaisseurs du peuple russe, de ses besoins, de ses aspirations. Non. Le peuple russe n'est pas tel que vous le dépeignez. Il a le culte des traditions, il est patriarcal, il ne peut pas vivre sans foi.
Je n'en disconviens pas. Et malgré tout, cela ne prouve rien.
Comment cela ne prouve rien? Autrement dit, vous êtes contre notre peuple.
Mais pourquoi pas, après tout? Quand le peuple entend le tonnerre, il croit que c'est le prophète Élie qui traverse le ciel sur son char. Et alors, faut-il que je sois de son avis? De plus, le peuple est peut-être russe, mais ne suis-je pas russe moi aussi?
Non, vous ne l'êtes pas. Après tout ce que vous venez de dire, je ne peux admettre que vous soyez russe.
Mon grand-père labourait la terre. Demandez à n'importe lequel de nos paysans en qui de nous deux il reconnaît le plus volontiers un compatriote. Vous ne savez pas seulement lui parler.
Vous lui parlez, vous, mais vous le méprisez en même temps.
Et pourquoi pas s'il le mérite? Vous rejetez le nihilisme, mais qui vous dit qu'il n'a pas été suscité justement par cet esprit national au nom duquel vous rompez tant de lances?
Allons donc. Vous parlez de l'utilité des nihilistes.
Utile ou pas, ce n'est pas à vous d'en juger. Vous-même, vous ne vous trouvez pas inutile, je pense.
J'ai le sentiment de ma propre dignité, moi, monsieur le docteur. Vous n'êtes que des dénonciateurs, c'est ainsi que ça s'appelle, je crois.
Oui, nous dénonçons les plaies de la Russie. Mais discourir n'en vaut pas la peine, cela n'aboutit qu'à nous abaisser, à nous transformer en doctrinaires. On ne fait que discuter de je ne sais quoi, d'art, de parlementarisme, de quoi encore. Alors qu'il s'agit en réalité du pain quotidien, que la superstition la plus grossière nous étouffe, que toutes nos sociétés par action font fiasco uniquement par manque de gens honnêtes, que cette liberté même dont se préoccupe le gouvernement ne nous rapportera probablement rien, parce que notre paysan se fait un plaisir de se voler lui-même à seule fin de s'étourdir au cabaret.
Je vois. Étant bien convaincu de tout cela, vous avez décidé de ne rien entreprendre de sérieux et de vous borner à insulter.
Exactement.
Et cela s'appelle nihilisme. Agir, détruire. Mais comment peut-on détruire sans savoir pourquoi?
Nous détruisons parce que nous sommes une force.
Pauvre malheureux. Sais-tu seulement à quoi tu apportes ton soutien en Russie avec ta formule prétentieuse et vulgaire ? La force. Mais tu la trouves chez la brute Kalmout, chez le Mongol. La force, ça mène à quoi ? Ce que nous chérissons, nous, c'est la civilisation, oui, oui, cher monsieur. Et n'allez pas me dire qu'elle ne vaut rien. Le dernier des rapins, un barbouilleur ou le tapeur qui se fait 5 copecs par soirée, oui. Même ces gens-là sont plus utiles que vous parce qu'ils sont les représentants de la civilisation et non de la force mongole. Et puis enfin, rappelez-vous, messieurs les forts, qu'on peut vous compter sur les doigts d'une seule main, alors que d'autre côté, ils sont des millions qui ne vous laisseront pas fouler aux pieds leurs convictions les plus sacrées et qui vous écraseront.
Qu'ils écrasent. On ne leur en demande pas plus. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Nous sommes plus nombreux que vous le croyez.
Quoi ? Sans rire, vous pensez venir à bout du peuple entier ?
Une bougie d'un copec a bien suffi pour brûler Moscou, vous savez.
Bravo, bravo. Écoute bien, Arkade, c'est ainsi que doivent s'exprimer les jeunes gens d'aujourd'hui. Autrefois, les jeunes gens étaient obligés d'étudier, ils n'avaient pas envie de passer pour des ignares, ils se donnaient du bal, mon gré, malgré. Aujourd'hui, il leur suffit de dire « Faribole, tout n'est que faribole », et le tour est joué. Ils sont bien contents, les jeunes gens, c'est vrai, hein, ceux-là. Autrefois, ils étaient tout bonnement des propres à rien, et maintenant, les voilà d'un coup promus nihilistes.
Tiens, ce sentiment de votre propre dignité dont vous parliez tant est en train de vous trahir, on dirait. Notre discussion est allée trop loin. Mieux vaut l'interrompre, il me semble.
Vous persiflez tout ?
Non, nous allons disséquer des grenouilles. Via Arkade. Au revoir, cher monsieur.
Zinaïda. Oh, Zinaïda. Voici ma fille Zinaïda. Je te présente le fils de nos voisins. Quel est votre nom, si je peux me permettre ?
Vladimir Petrovitch.
Est-ce que vous êtes occupé ?
Non.
Voulez-vous m'aider à dévider mes pelotes ?
Découvrons à présent l'autre grand chef-d'œuvre de Tourguenieff, extrait de Premier amour. 2 ans avant Père et fils, Tourguenieff écrit cette nouvelle magnifique sur un sujet tristement autobiographique, la rivalité amoureuse entre un père et son fils. En 1833, le jeune Ivan, 15 ans, tombe amoureux de sa voisine, la princesse Catherine Lvovna Chakovskoy, 19 ans, qui devient la maîtresse de son père. En 1860, la critique reproche à l'écrivain ce sujet immoral, en rupture avec les grandes questions sociales de son temps. Tourguenieff, dont c'est l'œuvre préférée, assume l'intimité du sujet. Il dit, je cite, « Beaucoup de personnes m'ont reproché d'avoir représenté mon père, mais je n'ai pas de raison de le dissimuler. Mon père était bel homme, je puis bien le dire, puisque je ne lui ressemble en rien. Et puis, quand je me relis, les personnages se dressent devant moi comme s'ils étaient toujours vivants. Voici une scène inspirée d'un fait réel où le jeune amoureux va épier sa bien-aimée de nuit, se promettant de tuer son rival à coups de couteau. » J'ai rentré dans ma chambre, pris dans mon bureau un petit couteau anglais que j'avais acheté peu de temps auparavant, en tâtai le fil, les sourcils froncés, avec une détermination froide et concentrée. 11 heures sonnèrent, mais je ne me déshabillais pas. J'attendais minuit. Enfin, les 12 coups sonnèrent. « Il est temps », murmurai-je entre mes dents. Je boutonnai ma veste jusqu'au col, retroussai même mes manches et descendis dans le jardin. Je m'étais déjà à l'avance choisi un endroit pour faire le guet. Au fond du jardin, là où la palissade qui séparait nos propriétés de celle des Assiskines s'appuyait au mur mitoyen, poussait un sapin solitaire. Debout, sous ses branches basses et touffues, je pouvais bien voir, autant que me le permettait l'obscurité de la nuit, ce qui se passait alentour. Là serpentait un sentier qui m'avait toujours paru mystérieux. Il courait sous la palissade qui portait à cet endroit des traces d'escalade et menait à une tonnelle ronde formée par des acacias. J'atteignis le sapin, m'adossai à son tronc et me mis à faire le guet. La nuit était aussi tranquille que la veille. Mais il y avait moins de nuages au ciel et les contours des buissons se voyaient plus clairement. Les premiers instants d'attente furent fatigants, presque effrayants. J'étais décidé à tout. Je me demandais seulement comment je devrais agir. Devrais-je crier d'une voix terrible « Où vas-tu ? Arrête ! À vous, tu es mort !» ou bien simplement frapper. Chaque son, chaque bruissement et froissement me semblait plein de sens, inhabituel. Je me préparais. Je me penchais en avant. Mais une demi-heure passa. Une heure passa. Mon sang se calmait, se refroidissait. L'idée que j'avais fait tout cela pour rien, que j'étais quelque peu ridicule, qu'on s'était moqué de moi, commença à s'insinuer dans mon cœur. Je quittai mon embuscade et fis le tour de tout le jardin. Comme par un fait exprès, nulle part on n'entendait le moindre bruit. Tout reposait. Même notre chien dormait, roulé en boule près du portillon. Je grimpai sur les ruines de la serre, vis devant moi la campagne lointaine, me souvins de ma rencontre avec Zénaïde et me mis à songer. Je sursautais. Il m'avait semblé entendre le grincement d'une porte qui s'ouvrait, puis le léger craquement d'une branche cassée. En deux bonds, je descendis des ruines et me figeai sur place. Des pas rapides, légers, mais prudents, résonnaient distinctement dans le jardin. Il s'approchait de moi. C'est lui enfin, pensais-je à toute allure dans mon cœur. Je tirai convulsivement le couteau de ma poche, l'ouvris convulsivement. Des étincelles rouges me passèrent devant les yeux, mes cheveux s'agitèrent sur ma tête de peur et de rage. Les pas se dirigeaient droit vers moi, je me penchais, je me tendais à leur rencontre. Un homme apparut. Mon Dieu, c'était mon père. Je le reconnus aussitôt, bien qu'il fût tout entier enveloppé dans une cape sombre et eût un chapeau cachant son visage. Il passa près de moi sur la pointe des pieds. Il ne me remarqua pas, bien que rien ne me cachât. J'étais si ramassé sur moi-même, si recroquevillé que je devais me confondre avec la terre. Othello, jaloux, prêt au meurtre, se transforma soudain en écolier. Je fus tellement effrayé de l'apparition soudaine de mon père que je ne remarquai même pas tout de suite d'où il venait et où il avait disparu. Je ne fis que me redresser et penser « Pourquoi mon père se promène-t-il la nuit dans le jardin quand tout redevint silencieux alentour ?» De peur, j'avais laissé tomber mon couteau dans l'herbe, mais je ne me mis même pas à le chercher. J'avais grand honte. D'un seul coup, je repris mes esprits. En rentrant à la maison, je m'approchai pourtant de mon petit banc sous le sureau et jetai un regard sur la petite fenêtre de la chambre à coucher de Zénaïde. Les petits carreaux légèrement bombés bleuissaient vaguement à la faible lumière qui tombait du ciel nocturne. Soudain, leur couleur se mit à changer. Derrière eux, je le vis. Je le vis distinctement. Un store blanchâtre descendait doucement, avec précaution. Il descendit jusqu'à l'appui de la fenêtre et resta comme cela, immobile. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» dis-je tout haut, presque involontairement, quand je me retrouvais à nouveau dans ma chambre. « Un rêve ? Un hasard ? Ou bien... » Les suppositions qui me vinrent soudain à l'esprit étaient si nouvelles et si étranges que je n'osais pas m'y abandonner.
Voici un nouveau convive, il a le droit à indiquer lui aussi. Approchez. Messieurs, merci de votre attention. Voici Monsieur Voldemar, le fils de nos voisins. Et voici le poète Maïdanov, le docteur Louchine, le capitaine à la retraite Nirmansky, le comte Manevski et Boris le Hussard, que vous connaissez déjà. J'espère que vous vous entendrez.
Oui, c'est formidable. Ça. Nous serons sûrement
comte, préparez un ticket pour Monsieur Voldemar.
C'est injuste. Ce gentleman n'a jamais participé à ce divertissement.
Ce n'est pas juste.
Non, c'est hors de question.
Préparez un ticket, s'il vous plaît. C'est une mutinerie.
Revenons au début de ce premier amour pour découvrir le portrait de la belle et intrigante Zénaïde. Toute sa vie, Tourguenieff éprouve un amour passionné pour la célèbre cantatrice Pauline Viardot-Garcia, rencontrée à Saint-Pétersbourg en 1843. Quelques années plus tard, il s'installe près de chez elle, à Paris. Puis à la fin de sa vie, il fait construire une datcha sur la propriété même des Viardot à Bougival. Le 3 septembre 1883, l'écrivain meurt dans les bras de sa bien-aimée. L'anecdote raconte que Pauline, en véritable diva, recevait dans sa loge, invitant quatre hommes à s'asseoir par terre sur l'un des pans de son manteau de fourrure blanc étalé autour d'elle. Tourguenieff était fier d'appartenir à ce cercle d'élus.
À travers le personnage de Zénaïde, l'écrivain rend hommage à la personnalité pétillante de Pauline Viardot. Revenons donc au début de l'histoire. Voici comment la jeune fille se joue de ses prétendants.
C'est à partir de ce moment-là que commença ma passion. Je ressentis alors, il m'en souvient, quelque chose de semblable à ce que doit ressentir un homme qui vient de prendre un emploi. J'avais cessé de n'être qu'un jeune garçon. J'étais amoureux. J'ai dit que c'est à partir de ce jour-là que commença ma passion. Je pourrais ajouter que c'est à partir de ce même jour que commencèrent également mes souffrances. Je languissais en l'absence de Zénaïde. J'avais la tête parfaitement vide. Tout me tombait des mains. Je pensais à elle intensément pendant des jours entiers. Je languissais. Mais en sa présence, la vie ne m'était pas plus légère. J'étais jaloux, j'avais conscience de ma nullité. Je boudais bêtement et rampais bêtement devant elle. Et pourtant, une force invincible m'attirait vers elle. Et chaque fois, c'est avec un involontaire tremblement de bonheur que je franchissais le seuil de son salon. Zénaïde avait tout de suite deviné que j'étais tombé amoureux d'elle. D'ailleurs, je ne cherchais pas à le cacher. Elle s'amusait de ma passion, elle me menait en bateau, me gâtait et me tourmentait. Il est doux d'être la source unique, la cause despotique et irresponsable des plus grandes joies et du plus profond chagrin d'un autre être. Et entre les doigts de Zénaïde, j'étais comme une cire molle. Au reste, je n'étais pas le seul à être tombé amoureux d'elle. Tous les hommes qui fréquentaient sa maison étaient fous d'elle. Et elle, elle les tenait tous en laisse, à ses pieds. Cela l'amusait de faire naître en eux tantôt de l'espoir, tantôt de la crainte, de les faire tourner selon son caprice. Elle appelait ça « cogner les gens les uns contre les autres ». Et eux, ils ne songeaient même pas à lui résister. Ils se soumettaient volontiers à elle. Dans tout son être, plein de beauté et de vie, il y avait une sorte de mélange particulièrement enchanteur de ruse et d'insouciance, d'artifice et de simplicité, de calme et de vivacité. Sur tout ce qu'elle faisait et disait, sur chacun de ses gestes voltigeait un charme fin et léger. Dans tous ses actes apparaissait une force pétillante, originale. Son visage aussi changeait constamment, pétillait également. Il exprimait presque en même temps l'ironie, la rêverie et la passion. Les sentiments les plus divers, légers, rapides comme les ombres des nuages par un jour de soleil et de vent, passait à tout instant dans ses yeux et sur ses lèvres. Chacun de ses admirateurs lui était nécessaire. Bielovzorov, qu'elle appelait parfois « ma bête sauvage », se serait volontiers jeté dans le feu pour elle. Maïdanov répondait aux cordes poétiques de son âme et la chantait dans des vers interminables. Elle se moquait très légèrement de lui et après s'être repue de ses effusions, elle l'obligeait à lire du Pushkin pour, disait-elle, purifier l'atmosphère. Louchine, médecin ironique et cynique, l'aimait plus que tous les autres. Elle le respectait, mais ne lui passait rien et parfois lui faisait sentir avec un plaisir méchant que lui aussi était prisonnier entre ses mains. « Je suis une coquette, une sans-cœur. J'ai une nature d'actrice, lui dit-elle un jour en ma présence. Bien. Alors, tendez-moi donc votre main, je vais y planter une épingle. Vous aurez honte devant ce jeune homme, vous aurez mal. Et pourtant, monsieur l'homme franc, vous voudrez bien rire. » Louchine rougit, se détourna, se mordit les lèvres, mais finit par tendre sa main. Elle le piqua et il se mit à rire, effectivement, tandis qu'elle enfonçait l'épingle assez profondément, en le regardant dans les yeux. Et Zénaïde continuait de jouer avec moi, comme avec les autres, comme un chat avec une souris. Tantôt elle faisait la coquette, et j'étais en émoi et fondais de délices. Tantôt elle me repoussait soudain, et je n'osais pas m'approcher d'elle. Je n'osais pas la regarder. Смотрит без ядёсный
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Françoise Flamand, traductrice.
Il y a deux pôles dans la conception de l'amour de Turgenev. Il y a l'amour positif, l'amour qui entraîne, qui aime, qui aide à vivre, et il y a l'amour qui tue. Et beaucoup de ces héroïnes, même plus éloignées que cette danseuse du personnage de Pauline Viardot, ont quelque chose d'elles, ces héroïnes tyranniques, et qui ont une influence néfaste sur la vie des hommes.
Découvrons à présent une autre femme fatale et une autre victime consentante, extrait de la pièce « Un mois à la campagne ». C'est à Paris en 1850 que Turgenev publie sa plus célèbre et dernière pièce de théâtre. En effet, l'écrivain se consacre désormais au roman, genre qu'il considère comme plus réaliste. Mais à cause de la censure russe, la pièce ne sera créée qu'en 1879 à Moscou. Elle sera redécouverte en 1909 dans une mise en scène de Stanislavski, qui voit en Turgenev le précurseur de l'univers mélancolique de Tchekhov. Voici une scène qui évoque les deux grands amours de l'écrivain, la nature et les femmes, mais aussi un autre thème cher à l'auteur, la nostalgie de la jeunesse. Dans la pièce, la belle Natalia Petrovna, une femme mariée et autoritaire de 29 ans, tombe amoureuse du jeune précepteur de son fils, l'étudiant Bieliev. Jalouse de Vera, une orpheline de 20 ans qu'elle vient de surprendre en compagnie de Bieliev, elle s'amuse par dépit à maltraiter Rakitine, un vieil ami secrètement amoureux d'elle.
Natalia Petrovna, regardez comme ce chêne vert est beau sur le bleu foncé du ciel. Il est tout embrasé par les rayons du soleil. Et voyez la puissance de ses couleurs. Que de vie et de force indestructible dans cet arbre, surtout si vous le comparez à ce tout jeune bouleau. Lui, on le croirait prêt à se dissoudre dans la lumière. Ses petites feuilles menues ont un éclat comme liquide. On les dirait fondantes et pourtant, il est beau aussi, ce bouleau.
Savez-vous, Rakitine, j'ai remarqué cela depuis longtemps. Vous avez un sens très délicat de ce qu'on appelle les beautés de la nature et vous en parlez d'une manière raffinée, intelligente. si raffinée, si intelligente, que la nature, j'imagine, doit vous être indiciblement reconnaissante de vos subtiles trouvailles. Vous la courtisez comme un marquis parfumé à talons rouges courtise une jolie petite paysanne. Mais l'ennui, c'est qu'il me semble parfois qu'elle serait bien incapable de comprendre, d'apprécier vos fines remarques, tout comme la petite paysanne ne comprendrait pas les galanteries de cour du marquis. La nature est beaucoup plus simple, plus grossière même que vous ne le supposez, parce qu'elle est saine grâce à Dieu. Les bouleaux ne fondent pas ni ne tombent en pamoison comme les dames aux nerfs fragiles.
Quelle tirade ! La nature est saine, ce qui veut dire en d'autres termes que moi je suis un être morbide.
Vous n'êtes pas le seul. Nous ne sommes pas les plus sains tous les deux.
Oh, je reconnais bien là cette façon de dire à quelqu'un le plus innocemment du monde les choses les plus désagréables. Par exemple, au lieu de lui dire en pleine figure « Mon pauvre ami, tu es un sot », suffit de laisser tomber avec un bon sourire « Vous et moi, nous sommes bien sots, n'est-ce pas ?»
Vous êtes vexé ? Allons donc, c'est absurde. Je voulais seulement dire que vous et moi sommes... Le mot morbide ne vous plaît pas. Que nous sommes vieux, tous les deux. Très vieux.
Vieux ? Moi, je ne me trouve pas vieux.
Pourtant, tenez, nous voilà tous les deux assis sur ce banc. Sur ce même banc, il y a de cela un quart d'heure, étaient assis deux êtres vraiment jeunes.
Ah, je comprends. Vous enviez leur naïveté, leur fraîcheur, leur innocence, bref, leur sottise.
Vous pensez ? Ah ? Vous pensez qu'ils sont sots ? Tout le monde est sot aujourd'hui pour vous, est-ce que je vois ? Non, vous ne me comprenez pas. Et puis d'ailleurs, même s'ils étaient bêtes, quelle importance ? À quoi bon l'esprit s'ils n'amusent pas ? Il n'y a rien de plus accablant qu'une intelligence triste.
Pourquoi refusez-vous de parler franchement, sans détour ? Je ne vous amuse pas, c'est cela que vous voulez dire ? Pourquoi maltraiter l'esprit en général au lieu du vrai coupable, moi ?
Vous n'y êtes toujours pas. Tiens, Vera a cueilli des framboises, les belles framboises. Comme elles sont rouges, aussi rouges que ses joues tout à l'heure. Bien, je rentre à la maison.
Vera, voilà encore un être jeune, selon vos goûts.
Eh oui.
Et où allez-vous ?
D'abord, je tiens à voir ce que fait cette Vera. Il est temps pour elle de rentrer. Ensuite, je vous l'avoue, notre conversation ne me plaît guère. Mieux vaut mettre fin pour quelque temps à nos dissertations sur la nature et la jeunesse.
Vous avez peut-être envie de vous promener seul ?
À vrai dire, oui. Nous nous reverrons bientôt. D'ailleurs, nous nous quittons bons amis, n'est-ce pas ?
Je pense bien.
Alors, au revoir.
Qu'a-t-elle ? Bah, un caprice. Un caprice ? Je ne lui en ai jamais vu auparavant. Quelle est la cause ? Ah, comme ils sont ridicules, les gens, qui n'ont qu'une idée en tête, un seul but, une seule occupation dans la vie. Moi, par exemple, elle a dit vrai, à force d'observer du matin au soir des petits détails chez les autres, on devient soi-même petit. Tout ça est bien joli, mais moi je ne peux pas vivre sans elle. En sa présence, je suis plus qu'heureux. On ne peut pas appeler bonheur ce sentiment-là, je lui appartiens tout entier. Renoncer à elle serait pour moi, non, je n'exagère pas, exactement la même chose que de renoncer à la vie. Qu'a-t-elle ? Que signifie cet affolement intérieur, ces propos acerbes qui lui échappent, et cette admiration soudaine pour la simplicité et l'innocence ? Le répétiteur russe, elle me parle souvent de lui. Je ne lui trouve rien de particulier, je l'avoue, un étudiant comme les autres. Serait-elle ? Non, c'est impossible. Elle est de mauvaise humeur. Elle ne sait pas elle-même ce dont elle a envie. Alors voilà, elle m'égratigne. Quand cet accès d'angoisse nostalgique sera passé, elle sera la première à rire de ce grand oisillon dégingandé, de ce frais jouvenceau. Votre explication n'est pas mauvaise, cher vieux Mihailo Alexandrich, mais est-elle bonne ? Dieu seul le sait. Attendons de voir. Ce n'est pas la première fois, très cher, qu'après vous être longuement tracassé en tête-à-tête avec vous-même, vous avez mis un point final à toutes vos considérations, croisé les bras et décidé d'attendre patiemment la suite des événements. Bon, ça suffit. Sortons-nous de la tête toutes ces bêtises. Ah, quelle journée magnifique!
Et voici pour conclure un retour aux premières amours de l'écrivain. Voici un autre éloge de la nature qui clôt le recueil des mémoires d'un chasseur. Nous avions ouvert l'émission avec l'évocation du printemps. Voici l'apologie de la saison préférée de Turgenev, l'automne. Que cette forêt est belle encore au jour de l'arrière-automne lors du passage des bécasses. Il ne fait point de vent, mais il n'y a pas non plus ni soleil, ni clarté, ni ombre, ni mouvement, ni bruit. Dans l'air léger flotte l'odeur vineuse de l'automne. Une brume fine couvre au loin les champs jaunis. Rousses et dénudées, les branches se dessinent sur un ciel immobile et pâle. Ça et là, quelques feuilles d'or, les dernières, pendent encore aux tilleuls. La terre humide rebondit sous les pas. Les hautes hampes desséchées n'ont pas même un frémissement. De longs fils étincellent sur l'herbe décolorée. On respire à plein poumon. Et pourtant un trouble étrange vous envahit l'âme. On suit la lisière en surveillant son chien, cependant que des images chères, des figures aimées, mortes ou vivantes, vous reviennent à la mémoire. Des impressions endormies depuis longtemps se réveillent à l'improviste. L'imagination prend son vol et plane comme un oiseau. On croit voir surgir toutes ces images. D'un élan passionné, le cœur bondit vers l'avenir, à moins qu'il ne se perde dans l'abîme des souvenirs. Toute votre vie se déroule à vos yeux. L'homme est alors pleinement maître de son passé, de ses sentiments, de son âme entière. Rien ne vient troubler sa rêverie, il n'y a ni soleil, ni vent, ni bruit. Ou bien encore vous partez pour une lointaine partie de chasse en pleine steppe. Après diverses de mauvais chemins de traverse, voici enfin la grande route. Les pies voltigent de saule en saule, de longs râteaux à la main, des femmes traversent les champs. Une lourde voiture de maître attelée de 6 forts chevaux vous croise, cahotante. Le coin d'un oreiller se montre à la portière. À l'arrière, assis de biais sur un ballot, un grand laquais en livrée, couvert de boue jusqu'aux yeux, se cramponne à une corde. Voici le chef-lieu du district, ses maisonnettes de bois branlantes, ses palissades interminables, ses maisons de briques construites par des gens du négoce qui ne les habitent point, son vieux pont jeté sur un profond ravin. En avant, en avant, la steppe est proche. Adieu, lecteur. Je vous souhaite un bonheur éternel.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Claire Levasseur. Merci beaucoup pour son écoute. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Et surtout un immense merci à vous, Julien, d'avoir lu avec moi.
Merci.
À bientôt, j'espère, une prochaine fois.
D'accord.
Ah, génial. Bonne soirée et à la semaine prochaine.